10h25 minutes. Bienvenue dans Trudeau Landry. Bon vendredi. 25-226, c'est le numéro texto pour nous joindre. Ou encore par téléphone 1-877-670-9330 pour jaser avec notre metteur en onde, Benjamin. On suit du coin de l'œil dans les prochaines minutes ce qui se passe avec le point de presse de la vice-première ministre et surtout ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui est en train de faire le point sur le dossier Martin Prudhomme, duquel on vient de parler. Jonathan Martin Prudhomme, donc, qui est menacé de destitution. On verra s'il y a quelque chose de significatif. Oui. Évidemment, on va y revenir au cours des prochaines minutes. Revenons sur la COVID quelques instants. Cette semaine, disons, Jonathan, qu'on a réalisé beaucoup de choses cette semaine. Quand on fait l'addition de ce qui s'est dit dans les points de presse, on a réalisé que les mesures allaient être là pour encore plusieurs mois, mm-hmm. Les mesures de contrainte. Noël risque de pas être un Noël comme on le vit habituellement. Il y aura pas de gros party à Noël, ça a été dit clairement par le premier ministre. Il y aura peut-être des petits rassemblements de 6 ou 10 personnes. L'Halloween, ça a été annoncé hier, collecte de bonbons qui va être permise, mais via la bulle familiale, donc pas question de faire la collecte avec les amis. Il y a aussi toute la question de l'hiver qui s'en vient. Dans les écoles, entre autres, la circulation de l'air concernant ce qui va se passer dans les écoles, ça semble être un enjeu aussi pour contrôler la pandémie, la propagation de la COVID-19. Oui. Question de mettre tout ça au clair, on va aller retrouver l'épidémiologiste, la docteure Nima Machouf. Docteur Machouf, bonjour!
Oui, bonjour!
D'abord, docteur Machouf, merci de prendre quelques instants pour nous parler. D'abord, réglons le cas de l'Halloween. Ce qui a été annoncé hier, à votre avis, avec, oui, la collecte de bonbons, mais bon, à travers la cellule familiale, pas question de passer ça avec des amis. Vous, est-ce que vous voyez un problème avec ça? Comment vous analysez ce qui a été annoncé hier là-dessus?
Je comprends que le premier ministre, il veut mettre le maximum de mesures sécuritaires, puis éviter les attroupements. C'est pour ça qu'il dit essayez de rester dans votre bulle. Mais honnêtement, on peut se promener avec des amis sur la rue sans qu'il n'y ait de problème de contamination, on peut passer l'Halloween de la même manière. Ça se passe à l'extérieur. Je pense que ce qu'il faut retenir du message que le premier ministre a donné, c'est que de un, on doit garder nos masques. Le masque va faire partie du costume. Et de deux, il faut éviter les attroupements. Alors, à part ça, on peut avoir du fun pour l'Halloween.
Qu'en est-il du risque de transmission par des objets? Parce que je me souviens, les premiers temps qu'on faisait l'épicerie en temps de pandémie, là, on était tous très paranoïaques, on nettoyait chaque élément qu'on achetait. Et là, il me semble que ce qu'on entend, c'est que la transmission, elle est moins importante par rapport aux objets. Et là, il y a des gens qui ont des craintes. Ben, les petits sacs avec les bonbons, est-ce qu'il faudra les mettre en quarantaine? Ou qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Oui, vous avez tout à fait raison. Le risque théorique existe. Le risque théorique de transmission par des objets existe. Et c'est pour ça qu'au début de la pandémie, on a beaucoup, beaucoup porté attention à ça parce qu'on pensait que c'était de ça qu'on allait s'infecter essentiellement. Mais finalement, on a réalisé qu'il y a peu de cas qui ont été rapportés avec une transmission probable par les objets. Donc, bien que le risque existe, il est beaucoup plus faible que ce qu'on le pense. Cependant, il faut quand même être prudent. Alors, l'idée de mettre les bonbons en quarantaine est une très, très bonne idée, à mon avis. On peut les mettre en quarantaine pendant 3 jours, puis pour la consommation des 3 premiers jours, ouvrir un certain nombre de bonbons, les désemballer, les enlever de leur emballage, les mettre dans un panier ou dans une assiette, puis consommer ces bonbons-là pendant les 3 premiers jours. Et le reste, par la suite, même s'il y avait des virus accrochés dessus, le virus aura séché.
Je reviens à ce que vous disiez en début d'entrevue, Dr Machouf. Mon fils, pour donner l'exemple que j'ai vécu ce matin, il m'a demandé, « Ouais, mais papa, pourquoi je peux pas passer l'Halloween avec les élèves de ma bulle classe? » Je comprends que vous avez dit au début que, bon, le gouvernement aime mieux mettre davantage de mesures que moins, mais, tu sais, est-ce qu'on n'aurait pas pu permettre ça, par exemple, de dire, regardez, vous êtes déjà dans une bulle classe, peut-être qu'avec les amis de la classe, on pourrait le faire. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Alors, votre fils a tout à fait raison, mais le problème, c'est que si le gouvernement permet ça, les gens vont abuser puis ils vont faire d'autres attroupements. Donc, étant donné qu'on peut pas contrôler, c'est le contrôle qui devient difficile. Et si tout le monde était discipliné, on aurait pu faire ça. Mais étant donné que les gens sont moins disciplinés qu'on ne le pense, alors le gouvernement est obligé de mettre un certain nombre de règles pour que ce soit contrôlable aussi. Mais sinon, vous avez raison, ce n'est pas dangereux. On fréquente les gens à l'école, on peut les fréquenter à l'extérieur. Mais le mot d'ordre, c'est le masque et la distance.
Docteur Machouf, je peux pas croire que je vous pose cette question-là, puis j'imagine que des fois, vous trouvez ça surréel, vous aussi, d'avoir à répondre à des questions du type « Comment devrions-nous donner des bonbons à l'Halloween? » Mais c'est la réalité de notre situation. Il y a comme une espèce de flou, là. J'écoutais le premier ministre hier, puis il disait « Bon, on devrait respecter la distanciation, éviter le contact. » Donc, ça laissait sous-entendre qu'on devrait mettre une espèce de bol, puis que les gens pigent dedans. En même temps, d'autres disent « Ouais, mais là, c'est une bonne idée que toutes des mains... Ben, » Bref, qu'est-ce qu'on peut suggérer aux parents qui se demandent aux gens qui se demandent comment on va remettre les bonbons. Là, ce serait quoi la façon la plus sécuritaire?
Oui, des fois, on doit penser à des choses qu'en temps normal, ça vient tout seul. Mais même en tant que COVID, en temps de COVID, on doit penser à tout. Alors, même pour la distribution de bonbons, je pense pas que ce soit, j'y crois pas, là, moi, au bol où chaque enfant va piger juste un bonbon sans toucher aux autres ou un paquet sans toucher aux autres. Ça, c'est irréaliste. Mais si nous qui donnons les bonbons, on se lave les mains au préalable. On peut même préparer les bonbons 48 heures à l'avance. Comme ça, les bonbons ont été en quarantaine pré-Halloween. Donc, quand on les donne, et même si les bonbons avaient été infectés ou peu importe, ils sont safe, on les donne. Puis on peut même imaginer des affaires super ludiques et super drôles. Quand M. Legault a proposé, je pense que c'est M. Legault qui avait proposé des espèces de glissades à bonbons pour envoyer des bonbons, ça peut être très drôle, mais c'est pas nécessaire. On peut, si on se lave les mains, c'est correct. Sinon, on peut même y aller avec des pinces dans les bols de bonbons qu'on a préparés pour les enfants. On peut y aller avec des pinces ou des louches. La louche avec laquelle on sert la soupe, là. Ouais. Là, on va servir des bonbons. Comme ça, on a beaucoup moins, on réduit encore plus les contacts.
Voilà. Parlons de l'hiver qui s'en vient au Québec, Dr Machouf. Puis bon, on pourrait inclure Noël aussi dans la discussion et dans les questions là-dessus, mais j'entendais entre autres des gens dire hier, il y aura entre autres un défi dans les écoles sur l'aération. Il va peut-être ouvrir les fenêtres en hiver puis monter le chauffage et tout ça. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, l'hiver qui s'en vient et sur la réalité où les enfants puis tout le monde va être un petit peu plus à l'intérieur, là?
La question de l'aération, ça, c'est la vraie question de l'heure. Plus on va être à l'intérieur, pendant de longues heures en plus. Plus on peut augmenter le risque de transmission. Alors, si notre souhait est de maintenir les écoles le plus longtemps possible, ouvertes le plus longtemps possible, il faut réellement penser à l'aération pour que ce soit sécuritaire. Les enfants, s'il y a transmission à l'école, c'est pas en passant dans le corridor pendant 3 secondes, en traversant les uns les autres qui vont se le donner, c'est en étant dans la classe pendant des heures.
Ouais, mais là, docteur Machouf, je me permets quelques secondes, vous interrompre là-dessus, parce que je pense que ça va être tout un défi, parce qu'on a souvent parlé de l'état des écoles au Québec, entre autres à la CSDM, je pense que c'est un endroit où c'est très, très, très problématique. Est-ce que ça veut dire qu'il va peut-être même faire ce que j'ai entendu hier, c'est-à-dire d'ouvrir les fenêtres en plein hiver puis dire aux élèves, amenez vos manteaux, crinquez le chauffage dans le piton, puis ça coûtera ce que ça coûtera. Est-ce qu'il va falloir aller jusque-là, d'après vous, dans certaines écoles?
C'est à voir, école par école. Le gouvernement a déjà débloqué 20 millions de dollars pour se pencher sur la question de l'aération. C'est peut-être pas suffisant, mais c'est quand même un bon début. Il y a des spécialistes, il y a des gens qui sont spécialisés dans la dynamique des aérosols. Alors, c'est à eux de faire comme genre des brigades de vérification, de contrôle de qualité de l'air dans les écoles. On a ces spécialistes-là, il faudrait les utiliser pour qu'ils nous fassent un diagnostic des écoles. L'ouverture des fenêtres en temps idéal, s'il faisait pas froid, ça aurait été la meilleure solution, la moins chère et la plus intéressante, mais dans nos conditions hivernales, c'est pas nécessairement faisable. Mmh. On peut quand même ouvrir la fenêtre de temps en temps entre les classes pendant les récréations. On peut quand même faire ça. Mmh. Mais il y a d'autres moyens aussi comme il y a la possibilité d'utiliser des purificateurs d'air. Il y a d'autres solutions. Que ça, c'est les spécialistes des aérosols qui pourraient nous diriger là-dessus, sur quoi faire, comment faire.
Mais je vous écoute parler de cet aspect-là, de la possibilité que ce soit aéroporté. Jusqu'à quel point notre connaissance du virus a évolué au cours des derniers mois sur cet aspect-là? Parce qu'au début, on parlait principalement des fameuses gouttelettes qui étaient transmises dans un rayon de 2 mètres. Et là, je me souviens qu'à un moment donné, bon, certaines études disaient, oui, mais ça pourrait être aéroporté. Donc, est-ce que c'est prouvé que il peut être, par exemple, aussi facilement transmis par les airs que par le biais des gouttelettes ou quelque chose comme ça?
Oui. La gouttelette peut être inculpé quand la transmission par gouttelette, quand les individus sont proches. Mais il y a des chercheurs qui se sont penchés sur des transmissions, des événements super propagateurs où il y a eu de nombreuses transmissions entre les gens qui n'étaient pas nécessairement à distance rapprochée. Donc ça veut dire une gouttelette. Si moi je suis infectée et j'ai des virus à transmettre par gouttelette, la gouttelette, elle va se sortir de ma bouche, elle va suivre une trajectoire comme une balle. Donc, elle va bondir un peu, puis elle va finalement descendre à peu près à un mètre et demi de moi. Elle va déjà elle va se mettre à terre. Donc, le virus aussi va se ramasser à terre. Mais il y a une partie des virus qui ne vont pas se ramasser à terre parce qu'ils ne sont pas contenus dans des grosses gouttelettes. Ils sont dans des gouttelettes très, 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 très fines qui s'appellent finalement des aérosols parce que c'est un continuum. La grosseur, c'est un continuum. C'est pas juste une grosseur particulière. Et ces gouttelettes, ces aérosols peuvent contenir des virus. Et par exemple, dans le cas des corals ou dans le cas des gens qui se sont infectés dans des autobus ou dans le cas de certains lieux où il y a eu beaucoup de transmissions qui ne pouvaient pas s'expliquer par les gouttelettes. Alors, les chercheurs sont arrivés à la conclusion que les aérosols doivent être pris beaucoup plus au sérieux. C'est pour ça qu'il y en a des centaines de scientifiques qui ont écrit à l'OMS, même l'OMS, le CDC, le Center for Disease Control aux États-Unis maintenant, reconnaissent l'importance de la transmission par aérosol. Et on doit y réfléchir et trouver une solution.
En terminant, Dr Machouf, à quoi on doit s'attendre pour la période des fêtes? On commence à réaliser ce qui nous attend, ce qui s'en vient, mais bon, la réalité, c'est que pendant la période des fêtes, souvent, on aime être faire des soupers avec plusieurs personnes, avec les gens plus âgés aussi, les grands-parents qui aiment voir les enfants. À quoi on doit s'attendre, selon vous, pour Noël et le jour de l'an?
C'est encore trop tôt, à mon avis, de voir ce qu'on va être capable de faire rendu au nouvel an. Mais je pense que avec le nombre de personnes qui sont infectées au Québec et qui augmentent encore, même si on a une journée une fluctuation, une journée une baisse, on a beaucoup de fluctuations, mais j'aimerais ça qu'à la fin du mois ça soit fini la COVID au Québec, mais ça ne sera probablement pas le cas. Et ce qui va être très très important pendant les fêtes, c'est que nos personnes âgées, on veut pas qu'ils attrapent la COVID. Ouais. On a vu à quel point ils en ont souffert et les décès, c'est essentiellement chez les personnes de 70 ans et plus qui surviennent. Alors ça, on veut vraiment l'éviter pour la deuxième vague.
Merci beaucoup de nous avoir parlé, Dr. Machouf.
Merci à vous.
Au revoir. Au revoir. Docteur Nima Machouf, épidémiologiste, beaucoup de choses là-dedans là, concernant l'Halloween. En tout cas, je pense que c'est de plus en plus clair. Là. Je pense pas qu'on doive tomber dans la peur et l'anxiété parce que les enfants vont passer l'Halloween. Là. À la limite, la bulle classe pourrait peut-être aurait peut-être pu être permise par le gouvernement. L'autre affaire, c'est concernant les écoles. Ça, c'est le prochain. Là. Ouais. On l'a pas vécu encore en hiver. On a vécu la pandémie avec une fin de printemps puis un hiver, dépendamment des secteurs au Québec, qui s'étirait beaucoup, mais les écoles étaient fermées pendant cette période-là. Ça va être un gros défi, l'ARS. Je vous le dis, j'ai entendu, je me souviens pas qui disait ça hier. J'aurais peut-être dû vous sortir l'extrait, mais c'est quelqu'un qui disait « Sortez les manteaux, on va ouvrir les fenêtres dans les écoles, on va craquer le chauffage au fond. » Ça coûtera ce que ça coûtera, non, mais il faut que l'air bon, circule là. Dans les écoles.
Et comme un auditeur le disait, là, avec des systèmes qui chauffent à l'eau chaude, si on laisse les fenêtres ouvertes, les tuyaux peuvent geler.
C'est ça.
Ça peut faire. Là, tu fermes les fenêtres. La nuit, là, il y a eu de la condensation, ça gèle, c'est pas une bonne idée.
Sauf que dans ces écoles-là, vous savez comme moi que c'est souvent les écoles, justement, qui ont des défis d'aération, qui avaient déjà ces défis-là avant la COVID.
Souvenons-nous du travail qui a été fait, entre autres, par la presse pour tester la quantité de plomb.
Ouais.
Dans les robinets, dans les écoles, juste ça, là. Ouais. Le plomb, on a l'impression que c'est quelque chose qui devrait être réglé depuis longtemps. Même pas l'heure de régler ça dans les écoles. Donc, imagine la qualité des systèmes d'aération.
C'est potable, là.
C'est tout sauf fraîcheur.
Oui, Nico?
Et sans compter qu'il y a des écoles où il y a des locaux qui n'en ont aucune fenêtre. Fait que c'est pas une solution pour ça.
Ben, ça, c'est triste.
Bon
ça.
Point.
C'est très triste.
J'ai déjà un bureau pas de fenêtre. C'est terrible. Ça a l'air de rien, là, mais c'est pas très, très agréable. Juste avant la pause, Jonathan, je pense que la ministre Geneviève Guilbeault, si on revient quelques instants au dossier Martin Prudhomme, ancien patron de la Sûreté du Québec menacé de destitution, je pense qu'elle a confirmé pas mal ce que tu nous annonçais en primaire.
Oui, tantôt. C'est ça. C'est que dans le fond, le gouvernement confie à une commission, la commission de la fonction publique, le soin de faire une recommandation, dans le fond, de décider du sort de Martin Prudhomme. Est-ce qu'on va recommander une destitution, congédiement? Est-ce que ce serait une suspension sans solde de 3 mois? Bref, cette commission-là va être chargée d'éclairer le gouvernement et l'Assemblée nationale. Ensuite, si c'était un cas de destitution. Mais je voyais là juste en bas d'écran, parce que bon, on est en onde, on peut pas l'entendre, mais Geneviève Guilbeault qui semble dire qu'elle juge que les motifs allégués dans le rapport du comité d'experts sont sérieux. Donc elle a quand même qualifié les motifs, mais
ça donne une crédibilité à ça un peu. Là.
C'est ça, de ce qu'on ouais. comprend, évite par exemple de statuer à savoir qu'est-ce qui devrait arriver pour la suite des choses.
OK, 10h41, on a parlé en début d'émission de la manifestation avec 15 imbéciles hier soir devant la résidence personnelle, résidence privée du docteur Arruda. Hier soir, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt le reportage de l'émission Enquête sur QAnon et oui. ceux qui se radicalisent, particulièrement en temps de pandémie. Je vous avoue que je suis resté un peu sur mon appétit.
Ah, pas
j'en aurais pris plus.
Ben, c'est ça, j'aurais pris plus longtemps. Mais j'ai aimé ce qu'on nous a présenté quand
c'était
même.
C'était bon, mais je pense qu'on aurait peut-être... Ça aurait été le fun d'aller plus loin encore sur cette question-là de la radicalisation. Et c'est exactement ce qu'on va faire au retour de la pause.